VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a prêté serment aujourd'hui pour un second mandat de 5 ans. Cette investiture met un terme à des mois de troubles politiques dans ce pays phare de l'Afrique de l'Est. Uhuru Kenyatta a remporté la présidentielle du 26 octobre après que le chef de l'opposition Raila Odinga eut boycotté le scrutin, évoquant un manque de transparence. Par ailleurs, des échauffourées ont éclaté ce matin à Nairobi entre la police et des militants d'opposition, mais aussi du pouvoir avant même la cérémonie d'investiture. Depuis plusieurs semaines, l'opposition répète à ne pas reconnaître la victoire de M. Kenyatta et a promis de poursuivre une campagne de désobéissance civile suivie jusqu'à présent de manière inégale par ses partisans. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a entamé hier l'examen d'un projet de révision de la loi électorale, une étape importante dans le processus vers les élections. Abdourahmane Dia.
Le projet de loi doit être adopté d'ici vendredi et promulgué le 15 décembre au plus tard selon le calendrier. Plusieurs élections, dont le scrutin présidentiel, doivent se tenir le 23 décembre 2018. Le texte prévoit un nouveau seuil légal de représentativité aux législatives pour décourager les candidatures fantaisistes et favoriser des regroupements des partis politiques, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Ramazani Shadari estime qu'il y a 703 formations politiques dans le pays. Corneille Nangaa, le président de la CENI, a justifié sa participation à une réunion des cadres de la majorité, assurant qu'il s'agissait d'une pré-consultation de la majorité présidentielle et de l'opposition. La CENI a récemment annoncé la tenue des élections pour le 23 décembre 2018. Hier, la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé au président Kabila d'annoncer clairement sa non-participation à la prochaine présidentielle. Pour le moment, M. Kabila n'a fait aucune déclaration sur ses intentions.
Au Mali, un ancien magistrat à la retraite a été nommé à la tête du ministère de la Justice après la démission du ministre Mamadou Ismaël Konaté. Cette démission intervient dans une situation très tendue au niveau de la justice malienne avec plusieurs affaires en instance. Kassim Traoré nous brosse le portrait d'Amidou Younoussa Maïga.
Natif de Gao, le tout nouveau ministre de la Justice, est un magistrat à la retraite. Amidou Younoussa Maïga est âgé de 67 ans. Il a fait ses études à l'ENA de Bamako avant d'aller à l'École nationale de la magistrature en France. L'enfant de Gao fit tour à tour juge de paix, juge d'instruction, avocat général près la cour d'appel de Bamako et conseiller à la même cour. Amidou Younoussa Maïga a servi au bureau du procureur du tribunal international pour le Rwanda de 1997 à 2012. Le nouveau ministre de la justice, Garde des Sceaux, vient à un moment où la tension est vive au niveau de la justice, surtout avec les multiples dossiers en instance dont le traitement comme les différentes interpellations de Rasbach pose problème. Le procès de Amadou Aya Sanogo et compagnons poursuivis dans l'affaire des 21 Bénins Rouges assassinés constitue des dossiers brûlants pour le nouveau titulaire du ministère de la Justice Garde des Sceaux. En tout cas, Mamadou Ismaïla Konaté, qui a démissionné, n'a donné pour le moment aucune explication par rapport à sa démission, qui d'ailleurs a été une grande surprise pour bon nombre de Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Une attaque à la grenade contre des soldats français à Ouagadougou a marqué l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso pour sa première tournée en Afrique, devant initier une nouvelle étape de la relation entre Paris et le continent. Demain, Emmanuel Macron rejoindra Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour le 5e sommet Europe-Afrique, avant de se rendre au Ghana, pays anglophone choisi pour illustrer sa volonté d'une approche continentale de l'Afrique au-delà de l'Afrique francophone. Les priorités du président français, obtenir le soutien financier des Européens pour la force antiterroriste des pays du G5 Sahel et coordonner la lutte contre les passeurs, y compris en Libye, où certains migrants sont vendus comme esclaves. Le président français a qualifié la semaine dernière ces cas d'esclavage de crimes contre l'humanité. À New York, il est 6h04.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et forte mobilisation de la communauté africaine pour protester contre la situation des migrants africains en Libye. Après Paris, Dakar et Washington, c'est devant la mission pour la Libye au siège de l'ONU à New York que les manifestants se sont donnés rendez-vous ce mardi à 12h15 pour faire entendre leur voix. Et Kabadou a joint à New York Doudou Steven Cissé, l'un des organisateurs qui précise les enjeux de la mobilisation.
On a été motivés avec la collaboration des différents présidents d'associations, des ONG, des hommes de médias, des artistes africains qui sont ici à New York, également des étudiants. Nous avons bien voulu, à notre niveau, organiser cette mobilisation pour dire non à l'esclavage, pour décrier aujourd'hui ce qui se passe en Libye, qui est véritablement un crime contre l'humanité. C'est ainsi qu'on a décidé de manifester pour faire entendre nos voix ici depuis New York, qui est le cœur du monde.
Avant ce reportage, vous étiez quand même au courant de comment était traitée la communauté africaine subsaharienne en transit par la Libye pour passer la Méditerranée et rejoindre l'Europe ?
Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations. Donc, à travers les réseaux sociaux, on avait des informations, mais on n'avait pas véritablement d'informations fiables à un moment donné. Mais avec le reportage qu'on a vu au niveau de CNN, ça a déclenché la colère un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, on ne peut pas se permettre de rendre un individu, un Africain ainsi. Mais c'est un problème réel, se permettre de vendre quelqu'un comme si on était dans un marché. Je pense que notre dignité a été bafouée. C'est la révolte aujourd'hui un peu partout en Afrique.
La communauté new-yorkaise, la communauté africaine se sent vraiment concernée. Vous espérez combien de personnes ?
Elle va être suivie. Ce ne sera pas simplement une marche pour le jour J. On prévoit d'autres rencontres. Au niveau des Nations Unies, il y a des marches qui sont prévues au niveau de l'Union africaine, au niveau de Washington. C'est véritablement la mobilisation. Pour la première fois, je vois que les Africains de New York sont solidaires debout comme un seul homme pour dire non à l'esclavage. Et je pense que ça va continuer parce que c'est un problème réel. Et également, on va nous tourner vers nos dirigeants africains afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités parce que c'est ça aussi. Il faut essayer de mettre à la disposition des jeunes Africains aujourd'hui. Ils ont besoin de travail. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de partir. Et si nos dirigeants aujourd'hui prennent leurs responsabilités, je pense que plus personne n'ira vers Libye ou vers le Maroc ou au niveau de la Méditerranée.
Doudou Steven Cissé, l'un des organisateurs de la manifestation anti-esclavage au siège de l'ONU ce mardi à 12h15. Un tribunal militaire de Gambie a accusé hier 10 soldats de trahison et de mutinerie dans le cadre d'un complot en vue de renverser le nouveau gouvernement du pays en juillet dernier et 2 autres pour avoir aidé un sergent à s'évader. Les 10 soldats se sont préparés ou ont tenté de renverser le gouvernement élu démocratiquement de la Gambie par des moyens illégaux et ont donc commis une infraction à la loi selon un document du tribunal militaire gambien. VOA Afrique, la délégation du gouvernement syrien qui doit participer au 8e cycle de discussions sur l'avenir de la Syrie sous l'égide de l'ONU prévoit d'arriver demain mercredi à Genève, a annoncé une porte-parole de l'ONU. En Suisse, lors d'un point de presse, le coup d'envoi de ce 8e round a été donné ce mardi. L'envoyé spécial de l'ONU, Stéphane de Mistura, a participé ce matin même à une rencontre avec des représentants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité organisé à l'initiative de la France. L'ONU tente de relancer les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie, au point mort depuis plusieurs mois, mais le régime de Damas, fort de ses victoires militaires, semble décidé à imposer ses conditions. Le procès pour corruption de la présidente sud-coréenne destituée, Park Geun-hye, va se poursuivre sans elle après une pause de plus de 40 jours, a annoncé le tribunal aujourd'hui. Madame Park, emportée au printemps dans un retentissant scandale de corruption, reproche à la justice sa partialité et boycotte l'audience. Son procès avait été suspendu en octobre après la démission collective de ses avocats qui entendaient protester contre la prolongation pour 6 mois de sa détention provisoire. L'ex-présidente refuse de coopérer avec les avocats qui ont depuis été commis d'office et ne s'est pas présentée à l'audience lundi et mardi. Et puis un haut responsable militaire chinois accusé de corruption s'est suicidé, a annoncé mardi l'agence Chine Nouvelle, un cas rarissime parmi les dirigeants chinois depuis le lancement de la campagne anticorruption du président Xi Jinping il y a 5 ans. Le général Zhang Yang, membre de la commission militaire centrale, s'est pendu à son domicile le 23 novembre, indique le communiqué. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes, et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Merci de vous associer à notre station et merci pour votre fidélité. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.